Bienvenue sur Parents du Multiple, le podcast des parents de jumeaux, triplés ou plus. Je m'appelle Marion, je suis maman de jumeaux et coach parental. Si tu es parent ou futur parent du multiple, alors tu es au bon endroit. Ici, les parents partagent leur expérience de la grossesse à l'adolescence de leur multiple, ainsi que leurs astuces pratiques avec bonne humeur et bienveillance. Tu peux retrouver plus d'informations et tous les épisodes gratuitement sur le site parentsdumultiple.com. Bonjour à tous, dans cet épisode je reçois Alix qui a 35 ans et est architecte à Genève en Suisse. Alix est la maman d'un enfant de 3 ans et de jumeaux de 1 an. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxshop.com. Avec le code multiple 10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Bonjour Alix.
Salut Marion.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Je vais bien, très bien.
Prête pour enregistrer un épisode?
Eh ben oui.
Pas trop stressée?
Non, écoute, ça va.
C'est ta première fois?
Oui, c'est ma première fois. Et je m'y attendais pas, donc voilà.
Ça va être sympa, tu vas voir. Les jumeaux, ça nous fait faire plein de... Les jumeaux, les multiples, les triplés, ça nous fait faire plein d'aventures et plein de premières fois. Donc...
Exactement.
Donc voilà une première fois. Allez, on va commencer comme d'habitude avec les questions des parents du multi. L'annonce de la grossesse multiple, c'était plutôt un coup de joie ou un coup de flip?
Alors pour nous, total coup de flip. Parce qu'on a déjà un enfant avant, donc on s'est dit petit deuxième. Et pour l'anecdote, en fait, juste avant... d'entrer dans la salle pour faire l'échographie, mon médecin il me demande en rigolant « Alors ça va, est-ce que vous êtes stressée ?» Et je sais pas d'où je sors ça, je lui réponds « Oui, je suis hyper stressée, j'ai peur qu'il y en ait plusieurs. » Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que j'avais pas de pressentiment, rien. Et deux secondes après, on commence l'examen et là je vois direct les deux poches, j'ai compris tout de suite.
Et ben effectivement, peut-être que c'était un pressentiment. Tu te sentais stressée du coup.
Je sais pas. Et là, bah en gros, la seule chose qui m'est sortie, c'est un mot très vulgaire que je répéterai pas, qui commence en pu et qui finit en un. Et j'ai répété ça tout le long de l'échographie. Voilà.
Et du coup, comment il te l'annonce ton gynéco vu qu'il savait déjà que t'étais stressée à cause de ça? Il prend des pincettes ou?
En fait, si tu veux, vraiment, il commence l'échographie. Moi, je regarde le monitoring, je vois les deux poches, je me tourne vers lui et je vois sa tête. Et il a rien eu besoin de dire. J'ai vu sa tête. Il était choqué. Je l'ai regardé, j'ai dit, il y en a deux. Il me dit, oui, il y en a deux. Et il continue de chercher et il me dit, mais c'est bon, il n'y en a pas trois. Et je dis, mais heureusement.
Bon, mais ça va alors, tout va bien. Ok, donc plutôt gros coup de flip. Mais du coup, tu étais un petit peu préparée au fond de toi peut-être, parce que si tu avais ce pressentiment, c'est drôle quand même.
Ouais, écoute, je sais pas. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vraiment eu de pressentiment. Mais voilà, tu sais, c'est nous, avant d'avoir notre fille, on a vécu un épisode dramatique où on avait dû interrompre une grossesse. Et puis, ben, je me dis, du coup, c'était un coup du destin. En gros, trois grossesses, trois enfants. Ça a un peu rééquilibré, ça a rééquilibré les comptes.
Ok, alors, la phrase que l'on t'a dite et qui t'a marquée, donc soit elle t'a fait rire, soit elle t'a énervée, mais en tout cas, tu t'en souviens.
Alors, je compte pas le nombre de fois où on m'a dit « bon courage ». J'ai l'impression qu'on me le dit encore une fois par jour, hein, d'inconnu dans la rue. Donc, je me suis dit « je vais essayer de trouver quelque chose de plus positif ». Et puis, en fait, moi, ce qui m'a encouragée, c'est que les seules personnes qui m'ont dit « waouh, trop bien, tu verras, c'est incroyable », c'est les parents de jumeaux. Dès que je croisais des parents de jumeaux quand j'étais enceinte, il me disait « Waouh, trop de chance, c'est une aventure merveilleuse ». Puis du coup, je me suis beaucoup plus raccrochée à ça qu'à des sombres inconnus qui me disaient « Bon courage ».
Ok, donc disons que ta phrase qui t'a marquée, c'est plutôt les autres parents de multiples que tu croisais et qui te montaient le moral à fond, quoi.
Exactement.
Alors, quel est ton meilleur cadeau de naissance ou que toi, tu t'es acheté et qui t'a bien servi dans les premiers mois, les premières années?
Alors, moi, j'étais partie sur un truc qui n'est pas trop matériel. Je sais qu'il y a beaucoup eu le coussin d'allaitement double, ce genre de choses. Moi, au final, je dirais que les plus beaux cadeaux de naissance que j'ai eus, alors je suis désolée, tu ne pourras pas mettre de lien, c'est, c'est les gens qui m'ont offert du temps, de leur temps.
Ok.
Je voulais dire aux gens, si vous avez des proches qui vont avoir des jumeaux quand les enfants sont petits, mais franchement, offrez-leur du temps. Soit passer une nuit chez eux, au final, pour vous, c'est pas grand-chose, ou amener des repas. Nous, on a une personne qui, encore aujourd'hui, nous amène à manger tous les jeudis soirs. Et franchement, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, en fait, m'enlever de la charge mentale, finalement.
Et ces personnes-là, c'est plutôt de la famille ou des amis ?
Alors, plutôt de la famille, je dirais. Okay. Moi, dans mes amis, il y en a peu qui ont des enfants, donc je pense, j'imagine, ils ont peu réussi à se projeter dans la difficulté de ce que je vivais, donc difficile d'aider à ce moment-là.
Bon, on en revient toujours à la même chose, hein, venir faire un brin de ménage, venir faire une petite nuit, venir Exactement. Préparer à manger, tout ce genre de trucs, l'intendance, on revient Exactement. Toujours à l'intendance.
Exactement.
Et est-ce que tu as quelque chose dont tu t'es beaucoup servi dans les premières années, quelque chose de matériel ?
Alors, matériel, j'aurais envie de dire les transats, mais étant donné que je vais parler de plagiocéphalie, c'est peut-être pas le bon truc à dire. Donc, non, vraiment, je dirais les chaises trip-trap. Ça, vraiment, okay. les chaises adaptables, ça, c'est mes meilleurs habits. Et après, okay. moi, dans les choses matérielles, pas tant que ça. Je dirais que j'ai rien. Une bonne poussette double, ça, c'est clair.
Et toi, t'étais plutôt team l'un derrière l'autre ou team à côté les enfants ?
Eh ben, team les deux. Figure-toi que j'ai une de chaque.
Ah.
Parce que je trouve que selon ce que tu fais, l'une est vraiment plus adaptée que l'autre.
Ok.
Donc, j'ai une grosse lourde où ils sont l'un devant l'autre et j'ai une super légère que je peux plier à une main qui m'a coûté pas cher où ils sont assis à côté, que je prends plus au quotidien.
Ok. Bah, tu vois, moi aussi, j'ai eu les deux, mais j'ai changé. Du coup, j'avais au début, quand ils étaient petits, une Eye Candy super robuste, ouais. etc., l'un derrière l'autre. Et ensuite, quand ils ont eu à peu près un an, on a changé pour une côte à côte de chez Baby Monster, qui est trop bien parce qu'elle est super légère, elle se plie.
C'est ça, hein,
quand
c'est
ils
la
sont
base.
Petits, tu peux la manier à une main, etc. Et du coup, on a aussi fait les deux, mais on n'avait pas eu les deux en même temps. Mais ça, c'est grand luxe, quoi.
Ouais, bah moi, en fait, la grande, celle où ils sont l'un derrière l'autre, je la garde parce que sur celle-là, du coup, j'ai eu la possibilité de mettre le skate pour mon troisième enfant.
Ah, ok.
Ça c'est encore le challenge supplémentaire.
C'est une autre aventure encore. Ok, donc toi, t'es team les deux, ça dépend de ce que vous faites.
Voilà.
Une phrase que tu voudrais dire aux futurs parents de multiples, s'il n'y avait qu'une seule phrase, ça serait quoi ?
Ah, je vais te répéter, mais franchement, mon mari, il a dû l'entendre, mais un million de fois, cette phrase, c'était un peu mon mantra. Dès que c'était un peu difficile, dès qu'on traversait des moments durs, je lui disais, mais rappelle-toi, dans un an, on est tous autour de la table, on mange des spaghettis. Dans 9 mois, on est tous autour de la table, on mange des spaghettis. Enfin, sous-entendu, rien ne dure. Tout va évoluer et en fait, ça évolue tellement vite et tout passe tellement vite que voilà. C'était mon mantra.
Donc, tout passe. Tout ouais. passe, c'est ton mantra.
Ok. Oui.
Alors, on va passer à l'épisode du jour. Et aujourd'hui, avec toi, Alix, on va parler de la plagiocéphalie et
c'est
du torticolis. Ouais, c'est dur à dire. Je prends mon temps, quoi. Et en plus, je le lis, tu vois. Plagiocéphalie et torticolis congénital. Du coup, toi, tu as fait l'expérience de ça avec tes jumeaux. Eh ben, je te laisse nous raconter comment ça s'est matérialisé, ce que vous avez dû mettre en place, etc.
Alors déjà, j'ai eu l'idée de t'écrire en fait, pour te proposer ce sujet qui n'est pas super, super glamour, je le sais, mais néanmoins, je pense super important. Quand j'ai vu la vidéo en fait, d'une Instagrammeuse qui a des jumeaux, et puis je regarde ces jumeaux, puis je me dis, mais il y en a un qui a clairement la tête plate. Et puis 2 jours après, j'ai une connaissance qui a aussi eu des jumeaux qui me dit qu'elle va devoir mettre un casque à sa fille à cause d'une plagiocéphalie. Puis là, je me rends compte et je me dis, mais en fait, quand on devient parent de jumeaux, on est en fait beaucoup plus concerné par ces problèmes que les gens qui vont en avoir qu'un seul enfant. Et puis moi, on m'en a jamais parlé, on n'a jamais attiré mon attention là-dessus. Et je regrette beaucoup parce que j'ai l'impression que si j'avais été peut-être un peu mieux informée, j'aurais moins eu de soucis par la suite. D'où l'idée de te dire, peut-être c'est un sujet à traiter pour les parents de jumeaux.
Je pense que c'est une très bonne idée, surtout du fait que souvent la plagiocéphalie, donc la plagiocéphalie c'est la quand l'enfant a la tête plate, souvent derrière, du coup, qui est souvent dû au fait qu'il reste trop longtemps allongé sur le dos, sur un tapis de jeu ou sur un transat, etc. Et effectivement, quand on a plusieurs bébés à s'occuper en même temps, eh ben, souvent, on les laisse dans le transat et sur le tapis d'éveil peut-être un peu plus longtemps que les parents qui ont eu un seul enfant. Du coup, chez toi, ça est apparu vers quel âge la plagiocéphalie et le torticolis?
Alors, normalement, chez moi, ça a apparu assez... Ça apparaît en général quand même dans les 3-4 premiers mois de la vie de l'enfant, quand le crâne, il est encore hyper mou. J'ai l'impression que c'est apparu vers 3 mois. Et pour te dire, ça a été hyper vite. À 4 mois, ils étaient les deux casqués et j'étais partie pour... un an de physio avec eux. Enfin, j'ai l'impression que les choses ont été hyper vite et que j'ai pas eu le temps de comprendre en fait comment tout ça est arrivé. Vers 3 mois, j'ai commencé à remarquer que ma fille, elle avait un peu la tête. En fait, ils ont eu les deux des plagiocéphalies et les deux pas la même plagiocéphalie. Mon fils, il a eu vraiment la plagiocéphalie tête plate, donc tête hyper caractéristique vraiment. Parce que c'était plutôt le facile des deux, il avait super bon caractère, petit, donc forcément il était peut-être un peu plus souvent posé que sa sœur.
Et puis, donc ça... du coup, celle-là, c'était derrière l'arrière de la tête qui était aplatie.
Ouais, vraiment. Je crois que ça s'appelle une brachycéphalie. C'est vraiment la tête à l'arrière plate.
Ok.
Et ma fille, elle a eu un autre cas de plagiocéphalie, où en fait, si tu veux, elle avait d'un côté à l'arrière plat et un côté à l'avant plat. Ça a créé comme une dissymétrie. Si tu regardes son crâne depuis le dessus, c'est comme si l'ovale du crâne, il n'est pas aligné à son visage.
Ok, j'ai du mal à me faire une idée, mais tu vois, je vais taper sur Google pour avoir une idée.
Plagiocéphalie fronto-occipitale, voilà.
Donc du coup, j'arrive bien à comprendre le fait que l'enfant est un peu trop sur le dos, du coup, son crâne... se met tout plat, mais le devant, ça vient d'où du coup?
Alors en fait, c'est ce qu'on a compris après, avec le temps, c'est qu'en fait ma fille était atteinte d'un torticolis congénital, donc un torticolis qu'elle a eu directement à sa naissance, en fait, qui est très probablement lié à sa position dans mon ventre et puis au fait qu'elle était très serrée, étant donné qu'ils étaient deux, et elle est donc née avec ce torticolis. Et en fait, pour te donner vraiment un exemple, en fait, ma fille, les 3 premiers mois de sa vie, elle regardait tout le temps à droite. Et je ne m'en suis pas aperçue. Et maintenant, je regarde les photos et je me dis, mais comment j'ai pu ne pas voir ça? Et du coup, en fait, si tu veux, du fait qu'elle était tout le temps dans cette position à droite, ça a déformé l'arrière de son crâne à droite. Et j'ai l'impression, par miroir, l'avant gauche.
D'accord. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui est là dès la conception, entre guillemets, puisque tu nous dis que c'est sûrement dû à une mauvaise position dans le ventre. Donc du coup, quand tu t'en es rendu compte, donc vers les 3 mois de tes jumeaux, qu'est-ce que tu as fait toi? Quel praticien t'es allé voir? À quelle porte t'es allé toquer?
Alors d'abord ma pédiatre. Ensuite, j'ai vu d'abord je sais qu'en France, vous appelez ça kinésithérapeute.
Oui.
Il me semble. Du coup, j'ai été voir un kinésithérapeute qui, au bout de 2-3 séances, m'a dit « Écoute, moi, c'est trop lourd pour moi comme pathologie. Je ne vais pas pouvoir plus aider. » Et là, directement, on a été redirigé vers physiothérapeute, directement dans les hôpitaux pour rencontrer, en fait, une neurochirurgienne, en fait, qui est un peu la ponte visiblement des plagiocéphalies à Genève, qui, elle, décide si l'enfant doit mettre un casque ou pas.
D'accord. Donc, en fait, c'était un stade trop avancé, entre guillemets, pour pouvoir être rétabli et remis en place par un kiné ou un ostéo, quoi.
Donc, exactement.
C'était l'étape au-dessus. Il fallait mettre un casque.
Okay. Et ça, honnêtement, ça s'est passé en 3 semaines. C'est ultra rapide. En 2-3 semaines, on peut passer d'un enfant qui a un crâne parfait à un enfant qui a une plagiocéphalie sévère. Et j'ai vraiment rien eu le temps de voir venir. Donc le côté, dès que vous détectez quelque chose, n'hésitez pas à aller direct consulter. Et puis à
et
direct...
du coup, Pardon, vas-y.
Non, vas-y, vas-y.
J'allais dire, du coup, quels sont les risques de la plagiocéphalie? Est-ce que c'est juste un risque esthétique en mode, ben voilà, ils vont avoir une tête un peu plate, etc. Ou est-ce qu'il y a d'autres risques derrière cette déformation?
Alors, la plagiocéphalie, non, normalement, c'est vraiment un risque esthétique, à moins qu'elle soit ultra, ultra sévère. Mais j'ai l'impression que les cas où c'est vraiment très sévère, c'est des cas qui n'ont pas du tout été pris en charge. Donc, du moment qu'on s'en rend compte et qu'on le traite de la bonne manière, ça n'a pas de répercussions, heureusement. Si okay. Ce n'est esthétique.
Tu nous rassures.
Oui.
Donc, du coup, des casques pour les deux petits.
Oui.
Des casques. Et ça se matérialise comment? Ils doivent le mettre combien de temps? Est-ce qu'il faut le refaire parce que leur tête est grandie aussi, j'imagine?
Oui. Alors, le traitement de casque, on le démarre en général quand ils ont 4 mois. Et ça peut durer jusqu'à leur 8-9 mois maximum. Parce que vers 8-9 mois, si tu veux, la croissance du crâne est plus assez rapide. Du coup, ça vaut plus la peine de mettre le casque. Parce qu'il faut imaginer que le casque, il va pas modifier la forme, en fait, de la tête de ton bébé. Ils vont construire le casque un peu plus grand que la tête de ton bébé. Et c'est la tête en grandissant qui va venir grandir dans une jolie forme. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Okay. Et du comme coup, un moule, quoi.
Comme un moule, exactement. Et du coup, c'est un casque qu'ils te font avec... c'est vraiment la super technologie. Hein. Ils ont des espèces de lumières pulsées, donc il n'y a pas du tout d'ondes ou quoi que ce soit. Et après, c'est des casques qui sont construits avec des imprimantes 3D et qui te renouvellent à peu près tous les 3 semaines, un mois.
Ah ouais, donc c'est quand même un traitement, ça demande... Pour les parents, entre guillemets, quand même pas mal d'investissement, dans le sens où j'imagine qu'à chaque fois, il faut aller reprendre des mesures, il faut refaire faire son casque, etc.
Oui, alors tu dois y retourner régulièrement. Après, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais alors en tout cas en Suisse, ce n'est pas pris en charge par l'assurance de base. Et du coup, c'est ultra cher. Donc moi, j'ai eu de la chance, mon assurance complémentaire à rembourser, mais c'est vrai que sinon, c'est un traitement qui est cher, qui est lourd. Et qui est difficile à assumer parce que l'enfant doit porter le casque 22 heures sur 24. Et que
donc
nous,
en fait,
malheureusement...
ils dorment avec aussi.
Ils sont censés dormir avec. Et nous, c'est arrivé en plein mois d'août, en pleine canicule. Donc, autant dire que ça a été très difficile.
Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que tes enfants l'ont bien toléré? Comment ça se passe pour... j'imagine, bon, 3 mois encore, ils n'ont pas trop d'avis, ni ils se rendent pas trop compte de ce qui se passe, mais comment ça s'est passé en pratique pour vous?
Alors, c'est drôle justement qu'on ait expérimenté avec les jumeaux, parce qu'ils ne l'ont pas vécu les deux de la même manière. Mon fils, lui, il l'a plutôt bien vécu. On s'est rendu compte après, en fait, en lui enlevant qu'il l'avait peut-être pas si bien vécu que ça, parce que le premier soir où on l'a couché sans son casque, il s'est endormi en 20 secondes, alors qu'avant, ça nous prenait 20 minutes. Et ça, on s'en est rendu compte après. Et ma fille, par contre, pour elle, ça a été ultra compliqué. Vraiment, on a tout essayé et on n'a jamais réussi à la faire dormir la nuit avec.
Donc, elle ne le mettait pas au final.
Elle ne le mettait pas la nuit. Et on s'est fait beaucoup engueuler par le neurochirurgien.
Oui, mais il fallait quand même qu'elle dorme, tu vois.
C'est ce que je lui ai dit.
Faire des choix.
Je lui ai dit, au bout d'un moment, entre un critère vital et un critère esthétique, on a dû faire un choix et voilà, on a fait celui-là.
Et là, du coup, est-ce que vous êtes au bout du traitement? Ils ont toujours les casques ou c'est fini?
Alors, les casques, c'est terminé. Ils ont un an maintenant, bientôt 13 mois. Donc, on a fini les casques il y a quelques mois. Donc, pour mon fils Lévi, lui, très bien, ça s'est bien remis, tout bien. On n'a plus besoin de continuer de traitement avec lui, ni en physiothérapie, ni rien. Par contre, pour ma fille, à cause de son torticolis, ça a été plus compliqué. Parce que par contre, on s'est rendu compte que sa plagiocéphalie était liée à ce torticolis. Et qu'en fait, un torticolis congénital, c'est un traitement en physiothérapie qui est très long. Donc, j'y vais chaque semaine avec elle depuis bientôt 6 mois.
Ah ouais, donc c'est quand même un sacré, des sacrés rendez-vous, un sacré traitement, etc., tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que maintenant que tu y réfléchis, tu te dis que tu aurais pu faire différemment pour prévenir justement cette plagiocéphalie? Et bon, ce torticolis, c'était dans le ventre, donc il n'y a pas grand-chose que tu pouvais peut-être faire. Je sais qu'il existe, par exemple, des coussins spéciaux tête plate, qu'on appelle. Donc, c'est un coussin et ça fait une espèce de trou au milieu. Et l'idée, c'est que toute la tête ne repose pas sur le coussin, mais ça fait une espèce de... de petits halos, quoi. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que maintenant que tu réfléchis, tu te dis j'aurais pu faire ça, ou qu'on t'a dit vous auriez dû faire ça, ou pas du tout, vraiment, franchement, il n'y avait rien à faire?
Alors, les choses matérielles, là, comme les petits coussins que tu dis, les casques, en fait, c'est toutes des choses qui sont un peu, des fois, contestées. Par exemple, tu vas avoir des praticiens qui vont te dire « oui, c'est super utile », et d'autres qui vont te dire « non, ça ne sert à rien ». Même les casques, c'est contesté. Même moi, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si on a fait le bon choix en leur mettant. Je me suis dit « on n'a rien à perdre ». Les coussins, c'est pareil. J'ai rencontré des professionnels qui me disaient « alors oui, c'est super utile », et d'autres qui m'ont dit que ça ne changerait rien.
Je pense toujours que, pareil, hein, du ouais, coup, c'est difficile de se faire son propre avis.
Pour moi qui l'ai vécu, je pense que les choses finalement en fait importantes à faire, alors, et je sais à quel point c'est difficile, parce que c'est clair que quand on a des jumeaux, bah, on ne peut pas passer toute notre journée à porter notre enfant en portage ou autre. C'est quasi impossible, on a tout le temps les mains pleines. Mais c'est vraiment appliquer les recommandations qui sont de poser tous les jours le bébé par terre, sur le ventre, sur le dos, dès qu'il est réveillé. Essayer de les mettre finalement le moins souvent possible dans les transats.
Donc, parce que du coup, les transats, ça leur empêche de tourner la tête comme il faut, parce qu'ils sont un petit peu coucounés, quoi.
Exactement, tout ce qui contient un peu trop. Par exemple, si on part en promenade, bah, privilégier le landau plutôt que le maxi-cosy pour la poussette. Éviter en fait toutes les choses qui les contiennent un peu trop et qui finalement vont appuyer toujours au même endroit sur le crâne.
Donc l'idée, c'est de les mettre dans des positions où ils peuvent être libres de bouger la tête, de bouger les bras, etc. Donc si effectivement, s'ils sont allongés dans la nacelle d'un landau, ils ont plus de place pour bouger la selle que s'ils sont dans la coque qui fait siège auto, etc. Parce que là, ils ont l'air bien cosy, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas vraiment bouger comme ils veulent.
Exactement.
Et on ne se rend pas compte, mais il reste quand même pas mal de temps au final.
Surtout les jumeaux.
Dans ces sièges-là.
Surtout les jumeaux.
Encore plus, ouais.
Et puis vraiment pas hésiter, même quand ils sont tout petits, plusieurs fois par jour, à les mettre sur le ventre quand ils sont réveillés, pour essayer de les faire jouer dans ces positions, en leur proposant des petits objets devant eux, pour essayer de vraiment développer leurs muscles de la nuque.
Ouais, bien y penser. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On les voit, ils sont bien dans leur transat. On se dit, bon, ben voilà, moi je vais cuisiner, on va papoter pendant que tu es dans le transat. Et des fois, ils passent une heure, ils passent deux heures. On ne se rend pas compte, ils se sont endormis, puis ils dorment là-dedans. Et puis au final, ça fait un long moment qu'ils sont restés. Moi, personnellement, j'ai aussi eu une expérience de torticolis et de tête plate à la maison, à un degré moindre. Hein, mais mon fils, lui, avait une tête plate. Je ne me souviens plus vers quel âge. Ça devait être vers 4-5 mois. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est on a fait pas mal d'ostéo. Et puis, je n'avais pas l'impression que ça marchait beaucoup. Au bout d'un moment, j'ai juste abandonné après 4-5 séances. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est au moment où il s'est assis, donc vers 9 mois, quelque chose comme ça. Et bien, à partir de là, franchement, ça s'est vraiment remis tout seul en place, quoi. J'avais acheté les coussins anti-tête plate, là.
Je les ai aussi.
Je ne sais pas si ça a changé grand-chose, mais voilà. Moi, ce que j'ai vraiment vu, c'est que ça a vraiment changé à partir du moment où il a pu s'asseoir et effectivement, il n'était plus tout le temps sur sa tête. Et ma fille, pour son torticolis, donc on avait vu l'ostéo, ça avait très bien marché. Et ce qu'on nous avait conseillé, pareil, à regarder toujours du même côté. Donc, on nous avait dit, quand elle est, par exemple, moi, je l'ai posée beaucoup dans les coussins doubles en forme de 3, là.
Oui.
Et du coup, elle me disait, vous lui roulez un linge, vous le calez du côté où normalement elle regarde pour, en fait, l'empêcher de regarder. Et voilà, c'est vrai que c'est aussi assez vite parti. Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, du coup, on ne s'en inquiète pas plus que ça.
Oui, je pense que ma fille a eu un torticolis vraiment sévère. Parce que c'est vrai que moi, si je lui mets le linge, en fait, 2 minutes après, je la retrouve et puis elle a la tête dans le linge. Enfin, c'était vraiment sa position naturelle que d'avoir la tête à 90 degrés. Impressionnant.
Ouais, elle pouvait pas vraiment tourner. Il y a aussi toutes les choses de prendre des petits hochets ou des petits jouets qui font du bruit et essayer de les stimuler du côté
Exactement.
Où ils regardent pas beaucoup pour les forcer à tourner la tête. Ou ce qu'on peut faire tout simplement, c'est quand on va faire une balade, en mettre un dans le porte-bébé ou en écharpe et l'autre
Exactement.
Dans la poussette et puis inverser au retour, etc. Mais c'est vrai que le conseil qu'on donne beaucoup quand on va voir des professionnels, la première chose qu'on nous dit, c'est portez plus vos enfants. Et quand on a des multiples, on est là, oui, mais
oui.
Si, je ne peux pas les porter toute la journée.
Clairement.
Et quand bien même je les porterai toute la journée, je ne peux pas les porter les deux en même temps toute la journée, c'est juste
non,
impossible.
C'est impossible. Dernière petite astuce qu'on m'a dit aussi, c'est vrai que Les jumeaux, souvent, ils aiment se regarder quand ils dorment. Donc, pas hésiter à les, en fait, les inverser de lit une nuit sur deux. Comme ça, ils regardent chaque fois de l'autre côté. Ça peut aussi aider pour les plagios et les torticolis.
C'est une astuce mignonne en plus, ça.
En plus, ouais. Comme ça, ils ont l'odeur de l'autre.
Se regardant. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais partager il nous reste 2 minutes avant la fin de cet épisode sur la plagiocéphalie et le torticolis congénital. Un dernier mot, une petite phrase pour peut-être les futurs parents ou les parents qui sont comme toi dans ce tumulte de faire des casques, etc.
Ouais, bah ça dure pas longtemps. Courage et puis surtout entourez-vous de spécialistes qui vous font du bien. Si vous croisez même une physio ou vous ressortez du rendez-vous, vous vous sentez moins bien qu'en arrivant, changez de physio. Et puis que tout va bien se passer au final. Ils grandissent très vite et très bien.
Et surtout, moi, ce que je retiendrai, c'est essayer de laisser les enfants libres au maximum. Enfin, libres voilà. À toute proportion gardée, mais sur des endroits où ils peuvent bouger.
Exactement.
Des endroits où ils peuvent bouger la tête, etc. Et si vous détectez le moindre signe, et aussi, très important, essayez de les mettre au moins une fois par jour sur le ventre, mais plusieurs fois par jour, c'est encore mieux. Et si vous détectez le moindre signe, vous vous dites, sa tête, elle a un peu une forme bizarre, etc. Allez consulter parce que, comme tu disais, Alix, ça s'aggrave très vite.
Hyper rapidement, hyper rapidement. Même si votre pédiatre, elle n'a pas de place dans la semaine, prenez-les devant, allez direct chez un physio, chez un ostéo.
Et puis même si au final, il n'y a pas de problème, une petite séance d'ostéo, de physio, ça fait toujours du bien. Donc, ce
ne
sera pas du temps perdu.
Exactement.
Merci Alix d'avoir pris le temps de venir témoigner sur ce sujet qui est super important et qui, comme tu disais au début, touche beaucoup de parents de multiples simplement parce que nous n'avons que 2 bras. Merci d'avoir partagé toutes tes astuces et je te souhaite une bonne après-midi.
Merci à toi pareillement, à bientôt.
Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode des Parents de Multiples.